Dans la première partie de l'entrevue avec Marcel Groslot, celui-ci parlait de la nécessité d'intensifier la recherche agricole au Québec. Pour ce qui est de la gouvernance des centres et instituts de recherche, l'UPA ne s'y intéresse pas. Elle veut cependant que les travaux répondent aux besoins des agriculteurs. J'ai repris mon entretien avec le président de l'UPA sur le thème de la gouvernance. On pourrait remonter au cas de la financière agricole où il fut un temps où c'était le président de l'UPA qui était président du conseil d'administration. On peut penser à la régie des marchés agricoles où l'influence était peut-être plus forte avant, auparavant de l'UPA. On est allé chercher des gens de l'extérieur du monde agricole pour gouverner, gérer tout ça. La recherche, ça doit être la même chose selon vous?
En fait, la recherche, il faut qu'elle corresponde aux enjeux que vivent les producteurs agricoles et non pas aux ambitions d'un chercheur qui, lui, a eu un intérêt dans un domaine particulier. Les centres d'expertise, lorsque le MAPAC les a mis en place au tournant des années 2000, se voulaient des centres d'expertise et de transfert de connaissances, mais c'est ce que c'est devenu. Si je prends le CDPQ, par exemple, au niveau des maladies qui étaient présentes dans le cheptel porcin au Québec, tu es bien placé pour le savoir, là, les recherches qui ont été réalisées dans le centre de développement du porc pour trouver des solutions à ces maladies-là ont été très importantes pour la profitabilité du secteur porcin. Chez Valacta, il y a du transfert de connaissances et d'expertise qui se fait pour les producteurs laitiers, autant sur les plantes fourragères, sur la façon de bonifier les récoltes de foin ou de fourrage. Il y a de la recherche continuellement qui se fait. Donc, c'est important que les producteurs soient impliqués dans les orientations de la recherche. Maintenant, est-ce qu'on doit être impliqué sur la gestion des centres de recherche? Ça, personne à l'UPA dit qu'on doit être là. Mais est-ce qu'on doit être impliqué dans les orientations de la recherche? Absolument.
Autrement dit, que le monde agricole, que les agriculteurs puissent dire, nous, nous aurions besoin d'en savoir plus sur tel phénomène, tel autre phénomène.
Absolument, parce que en production laitière, par exemple, on rencontre certains enjeux au niveau de certaines mammites qui sont plus présentes ici qu'ailleurs. Il faut trouver des solutions à ça. Il faut trouver des solutions par rapport au climat et au changement climatique et aux insectes qui sont présents chez nous, qui n'étaient pas là il y a quelques années. Il faut trouver des solutions à ça. Donc, la recherche appliquée doit correspondre aux enjeux que vit le secteur. Et ça, il faut que les producteurs soient présents pour donner les bonnes orientations à ce niveau-là.
Encore une fois, sans être les dirigeants et les chefs d'orchestre des équipes.
Là. On n'a jamais vraiment revendiqué ce rôle-là. Ce rôle-là a été, par le MAPAC, souhaité que les producteurs le jouent. Sur le centre de développement du porc, ou que ce soit au Sérum ou que ce soit ailleurs, le MAPAC souhaitait que les producteurs soient là. On a simplement répondu « présent ». Maintenant, si le MAPAC veut changer les règles du jeu puis faire gouverner ou administrer ses centres de façon différente, c'est libre à lui, là, c'est lui qui les finance. Mais encore une fois, il faut que les producteurs soient impliqués dans les orientations de la recherche.
Dans la foulée, justement, de ce dossier du sérum et du congédiement de M. Robert, bon, il y a le ministre de l'Agriculture, M. André Lamontagne, qui traverse une période assez trouble actuellement. Ça, c'est pas de nature à ce qu'il soit très, très, très ouvert, je pense, au cours des prochaines semaines, là, pour, justement, consolider les liens avec le monde agricole et peut-être même énoncer des politiques que vous attendez. Là.
Bien, je ferai la part des choses. Là. C'est sûr que, par ses déclarations, le ministre, comme on dit chez nous, a chauffé le poil. ça a provoqué beaucoup de remous. Puis je pense que lui-même a tenté de s'expliquer par la suite, puis il a dit qu'il y avait des déclarations qui étaient regrettables parce que c'était pas vraiment ce qu'il souhaitait passer comme message. Maintenant, moi, je dis, malgré la pression populaire qui existe, il faut que les décisions soient rationnelles et pragmatiques. Alors, c'est dans ce sens-là que sur les centres d'expertise, sur les opérations des centres d'expertise, sur la participation des producteurs dans les centres d'expertise, comme je l'expliquais, notre présence est nécessaire et on est prêt à jouer le rôle que le ministre souhaitera qu'on y joue. Je pense que ça a été profitable qu'on soit là. Puis j'espère que la période que le ministre traverse ou que le MAPAC traverse, là, le plus rapidement possible, là, qu'on puisse en sortir parce que les producteurs attendent autre chose là, et des politiques. Et on veut développer l'agriculture. Puis il y a un bon potentiel pour l'agriculture du Québec. Alors ces controverses-là, c'est pas d'ordre à aider à mettre en œuvre le MAPAC et toute l'industrie, tout le secteur derrière le potentiel qu'on a.
Qu'est-ce que vous avez pensé, M. Groslot, de, je prends le mot, là, du flirt de M. Lamontagne avec l'Union paysanne ces dernières semaines?
Bien, je trouve que ça donne un signal. L'Union paysanne n'est pas une organisation accréditée pour représenter les producteurs. C'est un OSBL. Ils se sont convertis en OSBL pour ne pas avoir à s'inscrire au registre des lobbyistes, entre autres, pour ne pas avoir à dévoiler leurs sources de financement. Alors ça, c'est des éléments qui sont connus. C'est une des raisons pour laquelle M. Lessard prenait certaines distances par rapport à l'Union paysanne. Ça n'empêche pas l'Union paysanne de s'exprimer, mais l'organisation accréditée pour représenter les producteurs agricoles au Québec, c'est l'Union des producteurs agricoles. On a un membership important. On l'a expliqué quelquefois au ministre. 95% des producteurs ont signé volontairement leur carte de membre de l'Union. Puis on a dans l'Union et des petits et des gros producteurs et des producteurs en région et des producteurs au centre du Québec et des producteurs qui font des marchés courts et des producteurs qui sont dans les marchés de masse. Alors l'information, les discussions, on peut les avoir idéalement. On espère que le ministre les ait avec l'organisation accréditée.
Très rapidement, un mot sur le dossier des taxes foncières. Est-ce qu'il y a eu des développements?
Pas vraiment. On sait que le ministre veut faire avancer le dossier en 2019. Moi, j'ai beaucoup de pression actuellement sur la... surtout les producteurs de Montérégie qui ont reçu leur compte de taxes en janvier. C'est des augmentations vraiment importantes, surtout ceux qui subissent à la voie une augmentation à cause du nouveau rôle d'évaluation. Puis en plus, des fois, les municipalités n'appliquent pas tous le taux distinct, là. Ça fait des augmentations vraiment importantes. Le programme est rendu à sa limite. Cette année, ça va coûter 170 millions au gouvernement du Québec. Et malgré ça, c'est insuffisant parce que les producteurs sont de plus en plus accablés par le poids des taxes foncières qu'ils ont à payer. Je donnais un exemple. Les producteurs, cette année, vont débourser au-delà de 120 millions. Malgré le programme, là, les producteurs vont débourser 120 millions pour payer leurs taxes foncières au Québec. Le revenu net agricole est de 1,2 milliard. Ça veut dire que 10 % du revenu net agricole qui va au paiement des taxes foncières, malgré que le gouvernement dépense 170 millions dans ce programme-là. Puis nous, ça fait des années qu'on dit que ce programme-là doit être revu et de façon fondamentale. Il faut plafonner la valeur taxable des terres. Il faut imposer un taux distinct. Si le gouvernement veut se protéger au niveau de ses dépenses dans ce programme-là, il faut prendre des mesures sur la valeur taxable des terres. Le niveau qu'on peut taxer une terre agricole.
C'est la et ça, par entente absolument avec le monde municipal.
Bien, le monde municipal doit comprendre là, que lui aussi a épuisé les capacités de ce programme-là. Là. On a souvent entendu des municipalités dire bien, c'est pas grave, taxer les terres agricoles, les producteurs sont remboursés. On ne peut plus dire ça. Là, c'est grave, taxer les terres agricoles, parce que les producteurs sont plus capables d'assumer les coûts des taxes malgré le programme. Là, on est à la limite de ce programme-là. Puis les solutions, malheureusement, ce qui se dessine, là, c'est que les solutions n'arriveront pas avant 2000, peut-être même 2020. Là. Si on a un projet de loi en 2019, on parle peut-être même de 2021. Là. Alors, c'est sûr que les producteurs ne seront pas contents, là, si c'est le cas.
En terminant, un mot sur le nouveau guide alimentaire canadien. Il y a plusieurs secteurs de production dans les protéines animales qui se sont sentis carrément visés là, par ce nouveau document fédéral.
Oui, bien, c'est sûr qu'on voyait venir. C'est pas une surprise complètement. Là. Depuis longtemps, les nutritionnistes favorisent de diversifier nos sources de protéines, favoriser les légumineuses plutôt que certains produits carnés ou de la viande. Alors, les habitudes alimentaires sont en train de changer. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que, contrairement à ce que d'autres pays font, on va favoriser l'approvisionnement local. On va dire, bon, notre nature, notre climat nous permet de produire telle protéine. Puis on recommande aux gens de consommer, oui, des protéines végétales, mais celles qu'on peut produire sous notre climat et de ne pas éliminer nécessairement les autres protéines s'ils sont présentes sur le marché local. Alors ça, je trouve qu'il y a un peu une dissociation. On parle beaucoup des gaz à effet de serre, on parle de protéger l'environnement, mais c'est pas nécessairement dans le guide, là, mais là, on voit sur le marché du yogourt au lait de coco. Bien, du lait de coco, ça ne pousse pas ici. Et là, si on se met à déforester d'autres régions dans le monde pour produire du lait de coco, parce que nous, maintenant, on consomme du yogourt au lait de coco, quel gain on a fait, là? Alors, moi, je pense que le yogourt produit avec le lait d'ici est préférable au yogourt de lait de coco. Puis si on veut consommer des produits végétaux, bien, il y a d'autres façons de consommer des produits végétaux que de consommer du yogourt au lait de coco, là. Tu sais, à quelque part, il y a comme un juste milieu entre bien se nourrir puis favoriser l'alimentation locale.
Par contre, le Guide alimentaire canadien peut être un bon appui à des productions comme la production en serre de fruits et légumes.
Oui, puis les légumes de conservation qu'on produit au Québec, maïs sucré, haricots, pois, c'est des légumes de conservation qu'on produit au Québec. Il y a des légumineuses qu'on produit au Québec aussi. La gourgane, par exemple, on oublie, mais la gourgane, c'est une légumineuse qu'on produisait au Lac-Saint-Jean et qu'on a recommencé à produire. Donc, il y a des opportunités qui vont se développer au Québec également pour répondre à ce besoin-là de la population. Puis, il y a la production en serre aussi. Puis, moi, chez nous, on fait un effort maintenant, vraiment, là, au lieu d'acheter des légumes importés, on va acheter des légumes surgelés produits au Québec. Puis, on peut adapter notre alimentation pour acheter local, même en période hivernale.
Monsieur Marcel Groslot, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Ici Lionel Levac. Marcel Groslot réclame que Québec énonce rapidement des programmes qui permettront d'atteindre les objectifs de la politique bioalimentaire que le gouvernement caquiste soutient et défend. Cela aiderait à rétablir l'humeur dans le monde agricole. Mais il faudra aussi, pour arriver à mettre fin à la morosité, que se règlent de vieux litiges comme la question des taxes foncières et que des décisions gouvernementales et de tribunaux administratifs soient favorables aux souhaits des agriculteurs. Ainsi, on espère que la Régie des marchés agricoles va bientôt décider d'un nouveau partage des recettes dans le secteur porcin, de façon à améliorer le sort des éleveurs. Aussi, il faut qu'Ottawa annonce les compensations au secteur laitier pour les pertes découlant des accords commerciaux internationaux. À ce sujet, on dit que le prochain budget fédéral contiendrait certaines dispositions et que les paiements aux producteurs seraient échelonnés sur quelques années. Là-dessus, au revoir.